RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le magazine Citoyen. On retrouve Lionel Sabot et ses invités.
Le magazine Citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et bonjour, soyez les bienvenus dans le magazine Citoyen. Dans deux ans maintenant, les JMJ auront lieu à Séoul, en Corée du Sud. Créées par le pape Jean-Paul II, les journées mondiales de la jeunesse sont devenues incontournables dans la vie des jeunes adultes catholiques. Alors comment se prépare-t-on à participer à un rassemblement de cette ampleur? Qu'apporte ce rendez-vous? On en parle avec nos invités ce midi que je vous présente. Nous sommes avec le père Ken Boirat. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec Narcisse. J'étais bien arrivé hors antenne, mais je vais y arriver aussi à l'antenne. Aoutaoulou, le vice-président du comité JMJ. Bonjour Narcisse.
Bonjour, bonjour.
Et puis nous sommes avec notre grande spécialiste à la rédaction de Radio Rythme Bleu des Journées Mondiales de la Jeunesse, Kalinda Bouakou. Bonjour.
Bonjour.
Les JMJ donc, dans deux ans, Corée du Sud. Père Boirat, pour commencer, les JMJ, de quoi s'agit-il exactement?
Alors c'est un rendez-vous avec le pape où la jeunesse se retrouve. Et dans tout le brouhaha que peut offrir la société, le pape leur donne rendez-vous pour, dans cet esprit fraternel, de pouvoir se retrouver et prier, louer à leur manière Dieu dans différentes langues et sous différents aspects.
Alors sans trahir de secret, vous avez un peu plus de 40 ans, Père Boirat. Vous êtes vraiment de la génération JMJ en fait. Hein.
C'est ça, c'est ça. Je suis vraiment de la génération JMJ. Et puis c'est un élan aussi que l'on a suivi, qui a été initié par le pape Jean-Paul II. Et qu'on essaie malgré tout, au retour de nos pays respectifs, de pouvoir... réinitier cet élan dans nos pays, dans nos diocèses.
Vous avez participé au JMJ en 2008, c'était en Australie, hein, c'est ça?
C'est ça.
Quel souvenir vous gardez de ce moment?
Alors c'était un JMJ improbable pour moi, puisque j'avais été à la dernière minute pris, et puis étant assez âgé, on m'avait mis à un poste de responsabilité. N'ayant aucune expérience dans l'extérieur du pays, j'avais été comme ça, et appris sur le tas à la gestion, aux réunions, à la gérance des transports, des itinéraires. C'est un peu le but des JMJ, pouvoir oser face à l'inconnu.
Narcisse, vous êtes vice-président du comité JMJ. Oui. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce comité?
Le comité en soi, c'est tout simplement du pilotage. C'est un ensemble de responsables qui ont été élus après chaque édition de JMJ. Je prends pour exemple l'édition qu'il y a eu en 2023. Juste après l'année 2023, novembre, le comité s'est rejoint avec à peu près des représentants de chaque paroisse et un représentant du diocèse pour justement élire le nouveau comité qui, tout comme des bergers, vont pouvoir appeler leurs brebis et les préparer à la prochaine aventure.
Ça se prépare très longtemps à l'avance, les Journées Mondiales de la Jeunesse?
En temps normal, toutes les éditions se font tous les 4 ans.
C'est ça.
Là, aujourd'hui, depuis 2023, on était censé avoir 4 ans. L'histoire nous a fait comprendre que 2024, c'est complètement éteint. Donc là, ça nous laisse quelques années pour pouvoir préparer au mieux notre jeunesse.
Vous avez participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse en 2023, c'était au Portugal. Je vous posais la même question qu'au Père Boirat. Qu'est-ce que vous gardez de cette édition 2023 des JMJ?
S'il y a bien un souvenir que j'aimerais partager, et je le partage à chaque fois que les personnes me le demandent, pour ceux qui me connaissent, et la personne qui est en face de moi, Père Ken, me connaît très bien, je suis quelqu'un de très extraverti et qui... dans ce pays, surtout dans ce pays, notre jeunesse, elle a du mal à sortir des sentiers. Et quand tu sors du pays, quand tu pars à l'extérieur et que tu rencontres des jeunes, d'autres jeunes qui ont des visions différentes de la vie, qui ont des visions différentes du monde, de notre relation avec Dieu, ça te fait grandir avec Dieu et ça te fait grandir personnellement. Et je suis content de pouvoir revenir ici dans mon pays et de pouvoir partager ça avec mes frères et sœurs qui sont ici, qu'importe leur âge, de leur dire que peu importe ce que tu veux, tes convictions et tout, si tu veux faire quelque chose, tu peux clairement le faire. Parce qu'à l'extérieur, ils réussissent. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas, toi.
Kalinda Bouakou, vous avez participé, vous aussi, au JMJ au Portugal. C'était en 2023. Pourquoi cette envie d'aller participer à ce grand rassemblement à l'autre bout du monde, j'allais dire?
Parce que c'était, pour moi, l'un Depuis que je suis à la radio, j'ai souvent eu l'occasion de pouvoir couvrir, mais en étant dans les locaux de la radio. On a pu m'offrir l'opportunité d'y aller. Et quand on m'a dit, Kelinda, c'est quand que tu vas y aller ? Tu n'as pas pu y aller au Panama. Là, au Portugal, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, j'ai saisi l'occasion d'y aller parce que c'était un rêve qui se réalisait pour moi de pouvoir participer aux Journées mondiales de la jeunesse. Parce que aller couvrir le pèlerinage de Téné, rassemblement de Téné, le pèlerinage de la Conception, le pèlerinage de Tomo, tout ça, c'est toutes ces petites graines de jeunesse qui ont germé et qui sont pour la plupart ont pu participer au JMJ et qui, comme Père Ken aujourd'hui est devenu prêtre, c'est pour moi une concrétisation de tout ce que j'ai pu faire depuis le début en couvrant les Journées mondiales de la jeunesse.
Père Boirat, Kelinda le disait, elle fait une habile transition, elle aurait dû présenter cette émission, elle l'aurait fait très bien. elle disait que finalement, et on le disait aussi, vous êtes la génération JMJ, aujourd'hui vous êtes prêtre. Est-ce que ça a compté le fait de participer peut-être au JMJ dans cette volonté de devenir prêtre est-ce que ça a compté ?
Ça contribuer en tout cas, puisque les rassemblements sont différents, quels qu'ils soient, le lieu où ils se font, où ils se déroulent, le thème. Et par contre, on retrouve une chose et une seule, c'est le désir d'être avec le Christ. C'est ce qui motive, c'est ce qui anime et c'est ce qui élève tous ceux qui, dans les difficultés de la vie, peuvent parfois tomber et ne jamais se relever. Et le fait de se sentir utile, je pense que ça relève énormément de personnes.
Narcisse, je suis un jeune. Alors déjà, les JMJ ont dit Journée mondiale de la jeunesse. Vous arrêtez la jeunesse à quel âge, histoire de savoir où je me situe ?
Alors pour un jeune qui participe pour la première fois, voilà, on est comme une délégation qui va devoir sortir du pays. On part avec des majeurs. Donc c'est
déjà majeur. Et après la limite d'âge supérieur, il y en a une.
La limite d'âge pour des jeunes, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment 30 ans. Ouais. On estime que les jeunes ils pourront bien vivre leur rassemblement en tant que jeunes de 18 à 30 ans. Ensuite, on accepte une autre tranche d'âge qu'on va appeler des accompagnateurs parce que bien sûr, une délégation
pas les appeler les vieux.
On peut dire ça comme ça. Pour une délégation qui dépasse 10, 15, 20, 50 personnes, il nous faut des responsables pour tout ça. Et ces personnes-là, on estime leur tranche d'âge entre 30 ans et 45 ans.
Très bien. Pour les Journées mondiales à la jeunesse 2023 au Portugal. Portugal, c'est quand même l'autre bout de la planète.
Exact.
Comment est-ce qu'on fait pour financer tout simplement un tel déplacement avec de nombreuses personnes, parce que c'est important quand même. C'est bien beau d'aller voir le pape, de faire les Journées mondiales à la jeunesse, mais on n'y va pas à la nage.
Non, je vais être très honnête avec toi, c'est une organisation monstrueuse. Là, aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté de l'autre côté du rassemblement avec l'organisation, tout ça. Mais en 2023, quand on voyait ça de l'extérieur, merci Seigneur, on a des secrétaires qui peuvent communiquer avec des personnes de l'autre bout du monde dans différentes langues qui ont ce don-là. On a aussi d'excellentes trésorières qui font en sorte justement que chacun des jeunes puisse être en accord avec ce qu'ils ont décidé de faire comme vente, comme récolte, de pouvoir rentrer dans les clous pour pouvoir partir.
Ça veut dire que là, on est en 2025. Les prochaines JMJ, c'est dans 2 ans, hein, c'est ça ? Vous êtes déjà... Oui ?
Dans 2 ans, oui.
Dans deux ans, vous êtes déjà au boulot pour les préparer ?
Oui, concrètement, oui. Là, aujourd'hui, c'est très bien qu'on passe à la radio parce que, mesdames, messieurs, en novembre 2025, nous avons notre récolte à Saint-Léon. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Donc, c'est notre première récolte ici pour la délégation JMJ, ça sera en novembre à Saint-Léon. Une journée récolte, des tombolas, des bingos, des activités. Et on va essayer de mettre en place au moins une récolte par an. Cette année 2026 et 2027. Et quoi qu'il en soit, comment on appelle ça ? S'il y a bien quelque chose que les rassemblements, ils m'ont appris, que ce soit les rassemblements ici en diocèse ou à l'extérieur, c'est que ce qui freine très souvent les jeunes, c'est bien le côté financier, c'est bien le portefeuille. Donc les responsables, le comité ou tous ceux qui organisent, qui sont autour de nous, qui pilotent, ils savent très bien que ça c'est un grand frein. Donc en faire sorte que le jeune il se sente vraiment à l'aise et qu'il n'y ait aucune barrière, que rien ne puisse freiner sa foi, c'est juste ça.
Kalinda, quel est le profil type, j'allais dire, du JMJiste calédonien? C'est plutôt des filles, plutôt des garçons, plutôt des jeunes, des moins jeunes?
Alors, pendant notre campagne pour cibler les jeunes qui peuvent partir, on n'a pas vraiment ciblé de jeunes particuliers. On est allé dans les différentes paroisses de Nouvelle-Calédonie pour rencontrer les prêtres référents et pouvoir rencontrer cette jeunesse pour les intéresser. Et justement, pour les intéresser, il faut aller chercher, il faut donner envie. Donc, tous les membres du comité actuel, on est allé dans les différentes paroisses également et faire partager notre expérience de 2023 et aussi leur dire vous allez partir certes, mais pendant cette période vous allez vous inscrire, vous n'allez pas vous inscrire juste pour vous inscrire pendant cette période, pendant deux ans, enfin un an maintenant, vous allez avoir des activités de cohésion entre guillemets avec notamment des ateliers, on peut pas dire ça des ateliers, mais avec le père Jacques Souta qui est notre référent. Il y aura des moments de liturgie, d'enseignement liturgique. Il y aura beaucoup de choses qui seront organisées pour tous ces jeunes qui se sont inscrits avec les accompagnateurs. Et pendant toute cette période, tous ces jeunes, ils vont pouvoir se rencontrer, partager et se souder surtout pour se connaître avant de partir à Séoul.
Narcisse, on est bien d'accord que les JMJ, c'est pas un voyage touristique.
Non,
concrètement. On en profite, mais la base, c'est pas ça.
Si ça peut se rapprocher d'un terme que tout le monde doit connaître, c'est vraiment un pèlerinage. C'est comme un pèlerinage. On part, on emmène une délégation pour vraiment rencontrer d'autres chrétiens du monde. Je pense que rien que le nom, il peut déjà tout expliquer. Journée mondiale de la jeunesse. Et à cette journée-là, on peut rencontrer... on a eu l'occasion, vraiment la grâce d'avoir, en 2023, pas que des catholiques, mais aussi des frères et sœurs protestants qui sont partis avec nous. Et ça a été vraiment la richesse de notre délégation, c'est de pouvoir partir avec des personnes représentatives du pays à l'extérieur.
Père Abouarat, c'est important cette rencontre entre les jeunes calédoniens et les jeunes du monde entier. C'est ce qui fait vraiment le sel des journées mondiales à la jeunesse, c'est aller à la rencontre de l'autre finalement.
C'est aussi important que d'être ensemble avec les personnes que l'on côtoie tous les jours. De sa propre culture, d'une même société. Le fait d'aller à la rencontre de jeunes venant d'autres pays, et c'est un réconfort dans le sens où on ne se sent pas seul. Et on se rend compte que les combats, même si l'éloignement fait que nous ne côtoyons pas tous les jours, et les combats sont parfois les mêmes. Parce que les nouvelles générations ont leurs propres combats. Mais on a cette ligne de directive qui est le Christ et qui fait qu'on essaie de l'appliquer dans nos vies de tous les jours.
Mais c'est pas compliqué pour les jeunes d'aujourd'hui d'aller à la rencontre d'autres jeunes qui plus est dans un autre pays. Enfin, c'est pas compliqué. Narcisse, je vous entendais faire.
Par expérience, les jeunes, surtout la nouvelle génération qui vient de sortir, on va dire que c'est des jeunes qui sont intéressants et intéressés. Et bon, il y a aussi un autre truc qui bascule un peu de l'autre côté, c'est qu'ils sont impatients aussi. Donc quand tu les fais sortir à l'extérieur, tout de suite ils vont vouloir ce côté, comment on appelle ça, ce côté renfermé. Je pense que je ne vais pas trop les retrouver justement. Peut-être quand ils sortent à l'extérieur, très souvent, ce qu'ils ne retrouvent pas ici, c'est que à l'extérieur, ils vont retrouver comme une sorte de reconnaissance ou se dire que à l'extérieur, oui, on peut le faire. Ou à l'extérieur, oui, tu peux devenir chef d'entreprise. Ok, d'accord. À l'extérieur, oui, ils chantent de toutes les langues. Ok, d'accord, tu peux le faire. À l'extérieur, tu peux voir Jésus de telle façon. Tu peux voir le Christ de telle façon. Et ici, comment on appelle ça? il y a beaucoup de barrières qu'à l'extérieur, on ne retrouve pas. Mm-hmm. Et que quand ils ont cette sorte de reconnaissance à l'extérieur, eh bien, ils viennent et puis ils l'appliquent ici, ils le partagent.
Ok, Linda.
Pour revenir à ce que disait Narcisse de notre délégation de GMJ 2023, il y avait des frères et sœurs protestants, comme il le dit. Et c'est pour aller dans son sens. Quand ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie, c'était un groupe déjà très soudé. Sauf que les protestants étaient pour la plupart jamais rentrés dans une église. Mmh. La première fois qu'ils sont rentrés dans une église, c'était la messe d'envoi à la cathédrale. Et pour eux, c'était déjà une découverte de rentrer dans la cathédrale. Et puis après, à l'église du Vœu, avant de partir au Portugal. Et quand ils sont arrivés au Portugal, au retour, on a vu ce changement dans ces jeunes protestants qui ont jamais touché un chapelet de leur vie, qui ont peur de rentrer dans une église. Quand ils sont revenus, ça a changé cette image qu'ils avaient de l'église catholique, de cette image par exemple qu'ils avaient de la Vierge Marie, ou même ils avaient des a priori en partant. Et certains sont partis aussi avec, on peut pas dire timide, mais cette très renfermé, et peur d'aller vers l'autre, peur de discuter avec l'autre. Et moi, par exemple, quand je les ai discutés, sondés les uns des autres pour pouvoir faire les interviews, rencontrer les différents autres médias, et ben beaucoup ont dit « Ah non, mais Narcisse, il est bien, frère protestant de l'IFU, Boche, il est bien aussi, mais ah non, mais nous, on n'ose pas et tout ». Et puis, arrivé en métropole, waouh, ils ont changé. Oui. Ils ont tous changé, ils ont tous allé à la rencontre d'un autre jeune, d'un autre pays, d'une autre langue, rencontrer d'autres personnes. Ça leur a permis de s'ouvrir et de pouvoir s'exprimer autrement. Mm-hmm. Et quand ils sont revenus, et ben, tous ces jeunes sont allés dans leur paroisse et ont discuter, on peut partager dans leur paroisse de ce qu'ils ont vécu au Portugal, ce qu'ils n'auraient pas fait avant de partir.
Père Bourad, je vais vous poser une question et je suis volontairement provocateur, je vous prie de m'excuser. À l'heure des réseaux sociaux, est-ce que les JMJ, il n'y a pas un petit côté un peu ringard pour des jeunes? C'est volontairement provocateur. Hein.
Oui, non, c'est pas... C'est le pape... Jean-Paul II, qui disait à l'occasion des JMJ 2008 qu'il y a eu cette évangélisation qui avait été faite depuis les apôtres, avec les moyens qu'ils avaient. Et cette nouvelle génération-là, du 21e siècle, était appelée à évangéliser sur ce nouveau continent qu'il appelait le continent virtuel. Donc, ringard, je pense que l'Église a survécu parce qu'elle a su s'adapter. Donc, on compte beaucoup sur notre jeunesse de pouvoir faire sienne cette Église et de l'amener avec les outils qu'ils maîtrisent sur ce qu'ils connaissent le mieux.
Narcisse, comment ça se passe quand on arrive aux Journées mondiales de la jeunesse? Parce que c'est pas, ça s'appelle des journées, donc il y en a plusieurs par nature. Sinon, ça s'appellerait le jour. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait aux Journées mondiales de la jeunesse?
Je vais prendre pour exemple 2023, parce que c'est le seul que j'ai vécu pour l'instant. Quand on a mis le pied en France avant de descendre directement au Portugal, on a eu... Avant la semaine justement où il y a les JMJ, il y a une première semaine qu'on appelle la semaine découverte, sur laquelle autour justement du lieu à Lisbonne où il y aura toute la semaine avec le pape dédiée juste aux JMJ. La semaine qui est juste avant, il y a tout un tas d'événements, on a des concerts, des festivals qui sont un peu partout. Dont nous justement, la délégation de la Calédonie, on a participé à festival organisé par Chemin Neuf. Le festival s'appelait Welcome to Paradise. Welcome to Paradise, un événement
à Portimao
qui était excellent justement avec beaucoup de partage avec toutes les communautés françaises. On avait aussi des communautés anglaises et puis je crois que c'était
Québec.
Tout et le Québec,
Côte d'Ivoire.
Juste après cette semaine-là où il y a tous les festivals, des concerts, comme des grands groupes comme Glorious, on a notre semaine avec notre semaine uniquement dédiée pour les JMJ. Je sais, dis-moi si je dis une bêtise, père aussi, durant toute cette semaine, il y a des diocèses qui accueillent chaque nation, on va dire ça comme ça. Nous, la Nouvelle-Calédonie, on avait été reçus par un diocèse, je n'ai plus le diocèse en tête, justement à Lisbonne, où il y avait nous et puis d'autres régions de la France. Bon, j'imagine que si on met tous les Français ensemble, ça va être quelque chose. Donc on a dû être répartis un peu partout. Durant cette semaine, le matin, on se regroupe. On a des petits partages entre nous, entre Français, ce qui est bien. Ça nous permet d'échanger avec... on avait des frères et sœurs de Haute-Savoie. On avait aussi des frères et sœurs de la Martinique.
Ouais.
Donc ça nous permettait à nous d'échanger sur des thématiques que l'on partageait le matin. Et l'après-midi, on se rendait sur le lieu des JMJ, à Lisbonne. Ouais. Et on faisait des partages dans des églises, on faisait des partages avec d'autres délégations jusqu'à le samedi soir. Donc j'imagine que toi aussi tu as vécu ça.
Deux fois.
Samedi soir où on se rejoint directement sur la grande place où il y a la grande VI avec les GMJ. Exactement.
Ouais. Où on a la. Et là c'est la rencontre avec c'est la rencontre avec le pape le samedi soir.
C'est ça. Le matin même de ce samedi. Il vient, il passe. Là, on a eu la grâce d'avoir le pape, il passait à travers nous tous. Quand il pouvait s'arrêter, il s'arrêtait. Et on se préparait pour la veillée du soir. Endormi sur place, forcément, parce que... Et je pense que
je vois que les traditions n'ont pas changé aux Journées mondiales de la jeunesse.
Ça n'a pas du tout changé.
Ouais. Et Kalina, quand... pardon pour la question, mais quand on voit le pape, c'est quand même un truc... c'est quand même un truc énorme.
Complètement, parce que... Moi, je n'ai pas pu le voir de près, mais pour les trois personnes qui ont pu le filmer en direct et on l'a fait vivre complètement avec le père Ngo, et justement, parmi les trois personnes, il y avait un des jeunes de l'IFU protestant. Pour eux, ça a été... Mais alors, c'était vraiment un grand moment parce que c'était le jour, l'accueil du pape le jeudi soir sur la place Eduardo VII à Lisbonne. Et à ce moment-là, quand il est passé dans cette grande rue-là, et tu avais tout le monde qui courait dans tous les sens pour juste aller voir le pape passer dans sa papa mobile, ça a été, et tu voyais une marée de drapeaux de tous les pays qui étaient là, et tous ceux qui étaient là qui, waouh, le pape qui passait, et alors le père Ngo qui était aux anges et qui portait sur son dos, ça c'était un moment pour lui inoubliable qui le fait vivre encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on en discute. Et même avec tous ses paroissiens, quand il lui pose des questions, pour lui ça a été ce moment-là. Pour le père Ngo, ça a été un moment... parce qu'avec lui, il y avait quand même un protestant. Et père Ngo, pour lui, c'est ce moment avec ce protestant. Bien sûr, il y a eu ce moment aussi à Fatima au retour, mais là, à ce moment-là, c'était... et aussi ce moment où on a nos 10 Calédoniens qui étaient sur le dimanche matin à la messe avec le pape. Et c'était samedi soir, la veillée, où on avait nos 10 Calédoniens qui étaient présents face au pape à quelques mètres. C'était pour ces 10 Calédoniens-là et Sœur Mado qui était avec eux, c'était waouh.
Père Borat, vous êtes prêtre, homme d'église donc, rencontrer le pape en 2008 en Australie, le voir, alors vous n'étiez pas prêtre à l'époque, si je ne me trompe pas, mais voilà, ça fait quelque chose, même pour un prêtre, parce que finalement, pardonnez-moi, mais vous faites un peu le même boulot, le pape et vous, quelque part.
Alors je n'ai pas eu l'occasion...
À la base.
Je n'ai pas eu l'occasion de le voir.
C'est un regret ?
Non, parce que il y a bien quelque chose qu'on recherche qui est au-delà du pape et qui est présent déjà dans notre pays. Et le fait, c'est cette émergence de tout ce qu'on peut voir là-bas quand on est ailleurs que chez soi. Et c'est ce qui nous amène à nous dépasser. Et au retour, on essaie en tout cas de garder cette force, ce courage qu'on a reçu, et de garder cette flamme dans les yeux. et de pouvoir la faire naître ici. Le plus important, c'est de pouvoir faire naître cette flamme ici.
Pour donner quelques chiffres, pour qu'on se rende compte de ce que sont les Journées mondiales de la jeunesse, j'ai retenu tout à l'heure en regardant, il y avait eu l'édition à Manille où il y avait 5 500 000 personnes qui étaient réunies à Manille. À Rome, Journée mondiale de la jeunesse que j'ai vécue, 2 200 000 personnes réunies à Rome. Est-ce que c'est impressionnant ? Est-ce qu'on se rend compte quand on est au milieu de la foule qu'on est au milieu d'une foule qui est si importante, Narcisse ?
Pour en avoir perdu quelques-uns.
Kélinda. Oui. Alors ça, au-delà d'en perdre quelques-uns. Mais est-ce qu'on ressent ce qui peut se passer quand on est dans une foule et qu'on est là pour la même chose tous ?
Oui, mais c'est exactement ça. Tu te sens, tu te sens petit, tout de suite tu te sens petit parce qu'autour de toi tu as tout un tas de personnes qui viennent avec la même chose. Donc forcément l'atmosphère elle est différente de ton quotidien de tous les jours. Là tu vis, tu peux limite vivre ta foi sans peur du regard de qui que ce soit. Tu peux vivre ça librement et c'est vraiment cet état d'esprit que l'on invite les jeunes GMJistes à partir vivre cet état d'esprit et de revenir avec.
C'est aussi l'occasion de peut-être de se recentrer quelques jours sur soi-même, de faire le point peut-être sur soi.
C'est l'occasion, c'est le rendez-vous de le faire. Oui, vraiment de partir, de prendre du recul, de vraiment essayer de sortir de son propre corps, imaginer ça et de faire vraiment une mise à jour de tout ce que l'on a vécu. Je prends vraiment ce rassemblement pour une occasion, surtout par rapport à tout ce que notre pays il a vécu l'année dernière. Je prends vraiment cette occasion-là pour confier notre jeunesse, notre pays, et vraiment faire, que ça soit un exemple, comme quoi de toi à moi, le vivre ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà des années qu'on sait le faire. Et peut-être à travers cette occasion-là de partir, de voir qu'on continue encore à le faire, et bien que ça soit vraiment une source d'espoir, source de bienfaits pour les prochaines éditions et pour le futur du pays. Vraiment.
Kélinda ?
Les Journées mondiales de la jeunesse, ça a été vraiment un grand moment, et comme beaucoup de jeunes, on parle beaucoup des catholiques, et moi je parle surtout de la délégation protestante qui était avec nous, comme ils nous disaient au retour, nous, la délégation entre guillemets catholique qui sommes partis de la Nouvelle-Calédonie, limite on était tous partis pour voir le pape. Pour les protestants, quand ils sont revenus, ils ont beaucoup posé la question, mais nous en fait on n'est pas partis pour voir le pape, on est partis pour vivre, pour louer, pour chanter, pour prier Jésus. Et quand ils sont revenus, ils nous ont dit, mais quand on se rend compte que sur cette place à Lisbonne, le pape a réuni des millions de personnes, et ben nous, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, de réunir toute cette jeunesse dans nos églises, dans les différents clochers qui existent en Nouvelle-Calédonie, 33, de les refaire revenir dans l'église, et comme Monseigneur Sione Poué disait la dernière fois, si à travers les réseaux sociaux on peut les faire revenir, n'est-ce pas, Narcisse, si on peut les faire revenir dans l'église à travers les réseaux sociaux, lui qui a vécu aussi les GMJ, et de plus laisser cette jeunesse sur le bord de la route et de les faire revenir dans les églises et faire repasser ce message, eh ben, on aura, nous, le comité GMJ de notre côté, de leur côté, déjà apporter une petite pierre à l'église.
Père Boirat, en 2027, ce sera a priori les premières journées mondiales de la jeunesse du nouveau Saint-Père, le pape Léon XIII. Est-ce que c'est quelque chose de particulier de vivre les journées mondiales de la jeunesse avec un nouveau pape ?
Eh bien, je pense que comme tout souverain pontife, il souhaiterait, on va dire, continuer cette tradition, la perdurer et peut-être aussi même apporter sa pierre, ou en tout cas sa façon de voir cette jeunesse. Et puis, pourquoi pas, donner aussi un nouvel élan.
Oui. C'est le pape des réseaux sociaux quand même, un peu le nouveau pape.
Oui, hein, et d'ailleurs, Acutis a été canonisé.
Exactement. un dernier mot avec vous tous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, ce sera le thème des prochaines journées mondiales de la jeunesse en 2027. Vous avez déjà commencé à potasser le dossier, Narcisse.
Oui, avec quelques responsables.
Tiré de l'évangile de Jean, je crois. Hein.
C'est ça. Avec quelques responsables, quelques formateurs extérieurs, on a commencé à préparer ça. Et dès qu'on aura la délégation peaufinée, validée, et puis la dernière délégation, là, on pourra commencer à travailler avec eux.
Vous pensez partir à combien, à peu près?
Entre 50 et à la gloire de Dieu.
Entre 50 et à la gloire de Dieu. Kalinda, c'est un thème qui peut éventuellement vous dire quelque chose. Prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Nous, déjà, on le vit déjà en ce moment, mm-hmm. ce thème. Et je pense que chacun peut apporter, chacun de son côté. Et cette jeunesse qu'on a réussi à réunir cette année est assez diversifiée. On a dépassé le quota parce qu'on avait dit 50 personnes. Et puis, dernière nouvelle, on a complètement ouvert les portes. Et on a dû aussi, plusieurs autres groupes se sont formés à côté. Mais au niveau du groupe du diocèse, on a dû élargir les portes parce que, grâce ou, je ne sais pas si on peut dire grâce, à notre voyage au Portugal en 2023, beaucoup étaient déjà intéressés. Mmh. Et quelle que soit leur religion, entre guillemets, ils étaient tous intéressés. Et justement, Mgr Souvenet-Point nous disait il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer.
Père Boirat, une dernière question. Vous serez au JMJ en Corée du Sud en 2027? C'est déjà sur votre agenda ou
non.
Vous aurez d'autres choses à faire dans le diocèse?
On ne sait pas.
C'est un signe de moi. Oui, ce qui est sûr, c'est que on est dans une phase où on manque énormément de prêtres.
Bien sûr.
Et donc, il faut cultiver pendant que d'autres peuvent récolter. Il faut que certains cultivent. Et c'est là le plus dur.
Merci à tous les trois. Kalinda, un dernier mot.
Juste un dernier mot.
Parce qu'on est en retard.
Pour les Journées mondiales de la jeunesse, comme au retour des JMJ, même si on en parle tout le temps, au niveau du comité, on avait remarqué que beaucoup ne savaient pas ce que c'était les JMJ. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le vivre ou qui veulent le vivre, Narcisse a piloté la mise en place du nouveau site JMJ Nouvelle-Calédonie, JMJNC. Donc n'hésitez pas à aller sur le site JMJNC ou sur les différents sites et réseaux sociaux que gère Narcisse.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce midi dans ce magazine citoyen que nous avons consacré aux Journées mondiales de la jeunesse. Les prochaines, ce sera donc dans 2 ans en Corée du Sud à Séoul. Passez une bonne après-midi. Au revoir.
Le magazine citoyen avec la Province Sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.